Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Le gouvernement du Québec veut créer un régime d'union parentale pour les conjoints de fait non mariés qui ont des enfants. C'est la deuxième partie d'un projet de réforme du droit familial lancé par le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. Ça fait 10 ans qu'il y a des projets de loi, disons, dans les officines du ministère de la Justice depuis la fameuse décision de la Cour suprême en 2013. Éric contre Lola. Les péquistes ont passé leur tour, les libéraux aussi. Il aurait fallu le deuxième mandat de la CAQ pour que enfin il y ait un projet de loi, le projet de loi 56. Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice, est au bout du fil. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Bon, le projet de loi 56 vise à créer un nouveau régime conjugal, l'union parentale. En quoi ça consiste, si vous êtes pour utiliser des termes simples?
En termes simples, M. Lagacé, le régime s'applique aux conjoints de fait qui vont avoir des enfants ou qui vont adopter un enfant après l'entrée en vigueur de la loi. Et ce que ça comprend, c'est la maison, les automobiles servant à l'usage de la famille, ainsi que les meubles meublant la résidence familiale. Donc, essentiellement, tous ceux qui ont déjà des enfants, que leurs enfants aient 2, 10, 15 ou 25 ans, le régime ne s'applique pas à eux, il va s'appliquer uniquement aux nouveaux parents ou aux parents qui ajouteront un enfant à leur famille. Et pour ceux-ci, ça sera possible de se retirer en tout ou en partie du régime parce qu'on maintient l'autonomie de la volonté des couples en allant chez le notaire. On fait ça d'une façon à faire en sorte que les intérêts des enfants soient protégés pour qu'il y ait un filet de sécurité minimal lorsqu'il y a séparation d'un couple pour les enfants.
OK, donc ce sera pas rétroactif.
Non, ce n'est pas rétroactif. Puis vous savez, le Québec a bien changé depuis la dernière réforme du droit de la famille en 1980, où 92% des gens étaient mariés. Aujourd'hui, le taux d'union de fait est à 42%. Puis 65% des enfants qui naissent aujourd'hui le sont de parents qui sont non mariés. Donc, il y avait vraiment un déséquilibre entre le droit puis la réalité des familles. Puis, comme vous l'avez dit en introduction, ça fait plus de 10 ans que le jugement Éric contre Lola est sorti et qu'on se devait de moderniser notre droit. Alors, c'est ce qu'on fait. On assure aux enfants que leurs intérêts soient protégés et surtout en matière de séparation, on s'assure de mettre des protections, notamment au niveau de la résidence familiale. Le parent qui va avoir la garde de l'enfant pourra avoir l'usage de la résidence familiale d'une façon temporaire pour éviter de déraciner les enfants au moment d'une séparation, comme ça se fait lorsque deux conjoints mariés se séparent, se divorcent. Donc, sur autorisation du tribunal, on pourra assurer une stabilité aux enfants.
Dans le cas d'un mariage, Monsieur le ministre, il y a aussi ce qui est séparable, si on peut s'exprimer ici. Il y a ce qui a été acquis pendant le mariage en termes de REER, de fonds de pension, etc. Là, avec votre projet de loi pour les conjoints de fait parents, c'est ce genre de véhicule financier n'est pas visé.
Exactement. Donc, on se limite à la maison, la résidence principale, la résidence de la famille, les automobiles ainsi que les meubles. Vous savez, on voulait pas marier de force les gens. Ce qui est important, c'est d'amener un filet de sécurité pour les enfants. Et les gens ont toujours le choix de décider de se marier. Maintenant, pour les couples qui vont avoir des enfants, il y a ce régime d'union parentale-là. Et ceux qui n'ont pas d'enfants ne sont pas visés par le régime ou ceux qui ont eu leurs enfants auparavant non plus. Mais cependant, ils peuvent décider d'y adhérer d'une façon volontaire. Alors, c'est toujours possible d'entrer dans le régime par convention, par un contrat de vie commune ou même on va avoir un formulaire simplifié sur le site juridique, donc qui est le site d'information pour les documents de justice du gouvernement du Québec. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment mieux protéger les enfants.
Vous connaissez ça mieux que moi, M. Jolin Barrette. Quand on se marie, est-ce qu'il y a possibilité de se retirer d'un régime de séparation du patrimoine?
Non, c'est pas possible de se retirer du patrimoine familial à partir du moment où vous êtes marié durant l'union. Au moment de la séparation, au moment du divorce, vous pouvez renoncer au patrimoine familial, mais seulement après la fin de l'union. Et pour ce qui est de votre régime matrimonial, le régime matrimonial par défaut qui est prévu, c'est la société de daquet. Ça signifie que votre revenu gagné est partageable. Vous pouvez aller chez le notaire au moment du mariage pour vous marier en séparation de biens, qui est un autre régime matrimonial où là, chacun conserve son salaire séparément, mais la majorité des couples sont mariés en société d'acquis.
OK. Donc, pour être clair, dans le nouveau régime d'union parentale, il va avoir un droit de retrait qui n'existe pas pour les couples qui sont mariés. C'est bien ça?
Exactement, parce que c'est un équilibre entre le fait d'ajouter des règles obligatoires. Donc, dès la naissance de l'enfant, le régime va s'ouvrir, donc le régime d'union parentale, où la maison va être partageable, les meubles ainsi que les automobiles. Mais si les couples veulent s'exclure du régime ou retirer un des biens du régime, ils devront aller chez le notaire et prévoir de se retirer du régime ou non. L'important, c'est que les gens puissent être conseillés juridiquement adéquatement par une personne neutre et impartiale, comme un officier public, comme un notaire.
OK, je sais là que évidemment il y a beaucoup de travail qui va se faire en commission parlementaire pour étudier votre projet de loi, mais allons-y concrètement, si vous permettez, Monsieur le ministre. Maison, auto, meubles. Disons qu'on a un couple. Ils se séparent. Ils ont deux enfants et il y a une asymétrie dans les revenus. Disons que un des membres du couple fait deux fois plus que l'autre. Comment on va séparer la valeur de la maison, de l'auto, des meubles? C'est quoi la méthode de calcul?
La méthode de calcul, c'est le même qu'en mariage, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un bien qui est partageable, exemple la maison, prenez une maison de 100 000 $ au moment où, supposons que vous l'avez acheté vous-même seul, avant d'avoir des enfants, puis que votre équité est de 50 000 $ sur la maison, donc il vous reste un prêt hypothécaire de 50 000 $ puis vous la remboursez après la naissance de votre enfant, bien là, à ce moment-là, ça va être ce 50 000 $-là qui va être partageable. L'idée est de faire en sorte que sur ces trois biens partageables-là, l'auto, la maison et les meubles, on se retrouve à avoir une interdépendance économique souvent entre les conjoints et ça sera des biens qui vont être partagés entre les deux conjoints. C'est pour éviter des situations que l'on voit fréquemment, M. Lagacé, notamment que, supposons, un des conjoints est propriétaire de la maison, elle est à son nom, il paye la maison et l'autre conjoint paye uniquement l'épicerie, il se sépare, le conjoint qui a payé l'épicerie se retrouve après 20 ans avec rien du tout.
OK. Et si les deux conjoints ont des revenus exacts, qui se sont occupés des enfants de la même façon, qu'il n'y a personne qui a mis sa carrière en veilleuse, comment est-ce qu'on procède à la séparation des biens si ça s'applique?
Bien, si ça s'applique, c'est une répartition pour ces trois biens-là qui sont dans le patrimoine d'union parentale, s'ils ne se sont pas exclus, à hauteur de 50-50. Donc, les couples ont la possibilité d'organiser leurs affaires de la façon dont ils le souhaitent, s'ils ne souhaitent pas être exclus par le régime. Ce qui est important de dire, et peut-être ce à quoi vous faites référence, c'est la prestation compensatoire qu'on est venu inclure également. Donc, la prestation compensatoire vise à corriger un appauvrissement qui serait corrélatif d'un enrichissement de l'autre conjoint. Donc, je donne un exemple. Supposons que vous travaillez à la maison, vous vous occupez des enfants, de la maintenance de la maison et que même vous contribuez à l'entreprise de votre conjoint, bien, vous allez avoir un recours pour l'enrichissement de votre conjoint s'il a bénéficié de votre travail et qu'en échange, vous n'avez rien reçu.
OK, bien là on n'est plus dans la maison, l'auto et les meubles, par exemple, quand on est dans l'enrichissement d'un des conjoints.
Exactement, c'est l'enrichissement sans cause et ça, je pense que c'est important parce que il ne doit pas y avoir de débalancement fondamental à partir du moment où vous contribuez, supposons, à l'entreprise de votre conjoint sans salaire. On a vu des cas récemment aussi, je pense que c'est important de rééquilibrer le tout et faciliter le recours en prestations compensatoires comme ça se fait en mariage pour faire en sorte qu'il y ait une équité et c'est pas fréquent ces recours-là mais je pense que pour assurer une protection aux enfants et aux conjoints qui est en situation de vulnérabilité il fallait le prévoir et c'est ce qu'on fait on rééquilibre le tout parce que ce recours-là il existait mais en enrichissement injustifié qui est un recours pas adapté à la réalité conjugale.
Personne se met en couple pour se séparer, mais des fois, les séparations surviennent. Et là, éclaircissez un point pour moi, M. Jeanlin Barrette. Le compteur commence quand? Le compteur commence quand l'enfant vient au monde ou quand le couple a aménagé ensemble?
Non, le compteur commence à la naissance de l'enfant. Donc, exemple, les gens qui nous écoutent qui n'ont pas d'enfant, ça va débuter après l'entrée en vigueur de la loi, lorsqu'ils auront leur premier enfant. Pour les gens qui ont déjà des enfants, ça va s'appliquer également au prochain enfant qui va naître dans leur famille après l'entrée en vigueur de la loi. Le régime n'est pas rétroactif.
OK. Autre question. Il y a des gens qui me disent, est-ce qu'il pourrait avoir, est-ce que vous êtes ouvert à avoir un rétroactif d'un an?
C'est pas le choix que nous avons fait. Écoutez, le passé, les gouvernements précédents n'ont pas légiféré. Les gens ont organisé leur vie en fonction du droit actuel et ils avaient le choix soit de se marier, soit de faire un contrat de vie commune. Le gouvernement ne souhaite pas y aller d'une façon rétroactive. Cependant, ces gens-là, s'ils veulent opter pour le nouveau régime, bénéficier des bénéfices du nouveau régime, ben ils peuvent le faire contractuellement avec leur conjoint, si tel est le désir, mais on refera pas le passé. Puis surtout, M. Lagacé, on voulait pas marier tous les Québécois de force. Je pense que c'est un régime qui est équilibré qu'on met en place pour le futur, pour les enfants. Et surtout, dans le régime, ce qu'on vient prévoir aussi, c'est des règles en matière de succession au niveau de la dévolution légale, où lorsque vous allez être en union parentale, ben vous allez pouvoir hériter, s'il n'y a pas de testament, d'un tiers de la succession de votre conjoint. Exemple, vous avez un enfant ou même deux enfants avec madame, vous êtes en couple pendant 10 ans, mais vous n'avez pas fait de testament, puis vous êtes en union de fait. À ce moment-là, c'est les enfants qui héritaient en totalité et donc qui héritaient de la maison. Maintenant, le conjoint va hériter du tiers de la succession comme en mariage.
OK. Y a des voix qui se sont élevées, je pense à Maître Goldwater, la célèbre avocate en droit de la famille, qui dit que le projet de loi est discriminatoire parce qu'on vise uniquement les conjoints de fait qui sont parents et non pas ceux qui sont conjoints de fait et qui n'ont pas d'enfants. Est-ce que vous avez pensé à inclure à un moment donné dans la gestation du projet de loi ceux qui n'ont pas d'enfants?
Bien, en fait, on a analysé, je vous dirais, de tous bords, tous côtés, toutes les propositions qui ont été faites au cours des dernières années. Puis, vous savez, il y a eu énormément de consultations. Cependant, moi, ce qui a guidé la réforme de la famille que j'ai fait avec le projet de loi 2, 12 et celui-là, le 56, c'est vraiment l'intérêt des enfants. Puis, c'est véritablement lors de la venue d'un enfant qu'il y a véritablement un changement dans le cercle et dans le noyau familial. Alors, nous, on a fait le choix de venir encadrer les familles qui ont des enfants. Alors, pour les conjoints de fait sans enfants, c'est toujours possible pour eux de prévoir des règles qui vont s'appliquer à eux par un contrat de vie commune ou même de s'assujettir volontairement, mais on vient pas les assujettir de force. On laisse la liberté contractuelle, l'autonomie de la décision aux conjoints qui décide de faire vie commune.
Dernière question, je sais que vous êtes en demande, mais justement, avec le projet où les gens peuvent se retirer, la clause où les gens peuvent se retirer, vous n'avez pas peur que des personnes qui sont dans des couples, disons, où il y a des relations toxiques, qui aient un petit peu de pression puis de menace, justement, pour que quelqu'un renonce à ses droits?
Bien, voyez-vous, ils doivent aller chez le notaire. Et le notaire doit s'assurer du consentement libre et éclairé de la personne. Vous allez me dire, écoutez, peut-être que...
C'est pas chez le notaire que le gars va menacer sa conjointe.
C'est là que j'y viens. Si jamais le consentement était donné d'une façon non éclairée et sous menace, ça sera toujours possible de faire annuler ce retrait-là, comme ça a été le cas dans le cadre du patrimoine familial en 1989. C'est déjà des cas qui ont été vécus, et ces situations-là permettent d'être annulées par le tribunal par la suite, si jamais madame avait renoncé dans le cas de violence conjugale. Et d'ailleurs, le projet de loi, point important aussi, que je souhaite vous souligner, on vient inscrire la violence judiciaire également. Donc, lorsqu'il y a abus de procédure en matière familiale par un conjoint, vous savez, souvent, il y a des chicanes à la cour où on utilise les tribunaux pour faire de la pression sur l'ancien conjoint ou sur les enfants. Des abus de procédure, on vient encadrer ça pour faciliter le recours en matière de violence judiciaire, pour faire en sorte que le juge prennent connaissance de l'historique des procédures judiciaires impliquant les ex-conjoints, des conséquences des procédures sur les enfants, de l'équilibre des forces, notamment en raison de l'existence de violences familiales, y compris de violences conjugales. Alors ça, c'est un message qu'on envoie aussi au tribunal pour dire, écoutez, quand il y a des litiges importants et fréquents entre les conjoints, regardez ça de près parce que les tribunaux ne doivent pas servir à victimiser des ex-conjoints ou même les enfants qui sont pris bien souvent dans des chicanes d'adultes, puis eux, ils n'ont pas choisi ça.
Ça va être très intéressant de suivre les travaux de la commission parlementaire. Monsieur le ministre, si je me fie à ma messagerie, il va y avoir des prises de position assez émotives là-dessus. Merci d'être venu nous parler de votre nouveau projet de loi.
Un grand plaisir. Merci,
à la prochaine. C'était Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Si vous faites des achats en ligne et que vous cherchez des bons prix, il y a fort à parier que vous connaissiez le site d'achat chinois Temu. Le Journal de Montréal en parlait récemment. Temu offre des prix à tout casser, mais il y a peut-être une sorte de pacte avec le diable là-dedans. Oui, vous allez payer moins cher, mais semble-t-il que Temu installe des logiciels espions sur les appareils de ceux qui font affaire avec son site de transaction. On va parler de tout ça avec Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale. Salut Steve!
Salut Pat.
Donc là, il y a un recours collectif qui est lancé par des consommateurs québécois. Il me semble que c'est pas la première fois. Je pense avoir vu de tels recours aussi aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on cible Temu?
Oui, en février dernier, une autre action collective qui a été lancée aux États-Unis, effectivement, pour, à ce moment-là, apporter en avant-plan comment est-ce qu'il y a des subtilités dans les opérations de Temu qui veulent, à ce moment-là, vraiment pas juste présenter les offres mirobolantes, comme tu as si bien décrit, mais bien de laisser savoir aux gens que, attendez un peu, là, Temu fait une collecte d'informations sur son utilisation malgré le consentement de la personne. Mais ça, c'est toujours un débat éternel où les gens vont installer multiples applications sur les téléphones, ne lisent pas les petits caractères, c'est long, et après ça, se commettent à donner des accès au téléphone, puis ça en résulte à la culture, ou je devrais dire, la cueillette d'informations sans son consentement.
OK. Dans le cas de Temu, est-ce que tout ça est fait à l'insu du consommateur ou quand on lit là, les 42 pages de conditions d'utilisation que personne lit, c'est bien écrit?
Ben, c'est bien écrit, certain, parce que côté légal, ils vont toujours défendre le point que, regardez, on joue fair play. Autrement dit, ils arrivent sur le marché et ils amènent des moyens pour être capables, eux autres, de mousser leurs affaires, faire affaire avec tout le monde. Et de cette façon-là, ils vont dire, ben nous autres, on a mis toute la disponibilité de l'usager, du client, lui expliquant de comment est-ce qu'on s'y prend et qu'est-ce qu'on va cultiver, etc. Mais la personne qui dit « oui, j'ai tout lu ça » puis il consent, mais après ça, ça appartient à l'individu de démontrer que ben il l'a-tu fait sciemment ou pas. Puis ça, c'est difficile à prouver. Mais fondamentalement, Temu, ça les amène beaucoup, comme n'importe quel, faut pas se le cacher. Là, Amazon vont faire la même affaire, puis d'autres grandes surfaces électroniques vont toutes faire cette documentation-là à des fins de republier soit des offres mirobolantes ou documenter à des fins de marketing justement les habitudes de consommation.
Mais il est question, dans le cas de Temu, d'accéder à la liste des contacts, par exemple, puis même voilà, d'installer des logiciels espions qui peuvent nous traquer, nous suivre là, sur Internet. Est-ce que ça, c'est vrai, c'est avéré?
Oui, c'est avéré parce que au même titre que lorsque l'application demande d'avoir accès à la caméra, au microphone et d'autres fonctionnalités de l'appareil portable, pourquoi? Il faut questionner pourquoi faut donner accès à cette application-là. Et c'est à partir de ces autorisations que les gens font fi de poser des questions, mais que là, l'appareil devient justement un moyen d'aller percevoir davantage qu'est-ce que les gens se disent dans leurs environnements. Fait que la fameuse légende urbaine qu'on discute ensemble d'un sujet, d'un projet de s'acheter une pièce de quoi que ce soit, et là, tout d'un coup, on a de la publicité qui arrive de l'autre côté, bien, c'est vrai, parce qu'il y a cette analyse-là qui est faite dans l'environnement, repérage de mots-clés, et après coup, bien, c'est amené pour monétiser, faire de la publicité, encore une fois.
OK, c'est intéressant que tu mentionnes ça, Steve, parce que il y a plein de gens qui l'ont vécu. Tu parles de faire un voyage, tu parles de faire un achat, et oups! T'as pas fait de recherche encore, mais Facebook et Instagram vont commencer justement à te pousser des pubs dans le sens de ta discussion d'il y a une heure, une journée, une semaine. Tu te dis légende urbaine, mais c'est une légende urbaine ou c'en est pas une?
Ben, c'en est pas une, parce que, encore là, il y a beaucoup d'analyses, pour pas dire des recherches, qui vont contredire l'un et l'autre. Mais quand on y va, je veux dire, c'est pas une perception en temps réel de toutes les conversations qui se passent dans la maison. Cependant, faut pas être dupe non plus. Quand on utilise des Amazon, des Alexa de ce monde, puis tous les autres appareils, les haut-parleurs intelligents, ces haut-parleurs-là écoutent en constant, constamment et veulent repérer le mot-clé pour activer leur fonction, puis après ça, exécuter une commande. Fait que nécessairement, il faut qu'il y ait cette écoute-là de la part des appareils électroniques qui utilisent la reconnaissance vocale pour l'activer. Puis là-dessus vient ces applications-là de commerce en ligne qui, eux, veulent à ce moment-là aller percevoir puis être les premiers à offrir là, justement, l'idée que la personne vienne de discuter dans son environnement. Et c'est vraiment là-dessus, Pat, un échange en temps réel de matériel de marketing entre les grandes compagnies, là, que c'est un flot de données, là, constant. Alors, si on vient, on retourne de 40 ans, ben, c'est des listes qui, c'est, on, les commerçants s'échangeaient. Oui. Et là, c'est fait en temps réel.
Steve, en quoi Temu est pire que les autres sites transactionnels, tu penses?
Il y a plusieurs aspects, puis le premier aspect, on peut dire, ben regardez, il y a eu une belle publicité, ils ont acheté beaucoup de publicité, je pense à 21 millions de dollars de publicité au dernier Super Bowl, pour mousser le produit, mousser qu'est-ce qu'ils font. Fait que si on achète de Temu, on va acheter en Asie, ça veut dire que ça va prendre une empreinte carbone plus grande. Donc, il y a cet aspect-là qu'on peut considérer. Mais par contre, depuis la révolution de la loi sur le renseignement national de la Chine en 2017, ça donne la capacité au gouvernement chinois, le Parti communiste, d'aller dans n'importe quelle compagnie qui est hébergée en Chine, dont son siège social est là, et demander des informations à cette entreprise-là sur des sujets d'intérêt. Alors, si on est un sujet d'intérêt, on fait du travail avec des applications chinoises sur nos téléphones et documente davantage qui on est, qu'est-ce qu'on est. Fait que sur un individu, ça risque moins de s'intéresser à une personne. Par contre, ils ont à ce moment-là une appréciation de toute la société, comment qu'elle se comporte, comment ça va, etc., ce qui amène de l'information stratégique, excuse-moi de dire ça comme ça, mais à ce pays-là, versus une application nord-américaine, que si on a besoin de se retirer ou on a besoin de faire un recours collectif ou un recours judiciaire contre l'entreprise ici en Amérique du Nord, mais ça va être plus facile que d'aller poursuivre quelqu'un en Chine.
J'ai une question dans la messagerie au 9-8-9-8-5, Steve, quelqu'un qui demande, si on désinstalle l'application Temu, est-ce qu'on est en sécurité?
La désinstaller, c'est une première étape. Redémarrer son téléphone, puis après ça, oui, l'appareil devrait être à ce moment-là exempt de moyens de pour épier le quotidien de tout le monde.
Merci, Steve. Toujours un plaisir.
À la prochaine.
À la prochaine. C'était Steve Waterhouse qui est, comme vous le savez, on l'entend souvent sur nos ondes, expert en cybersécurité.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le Québec maintenant.
Abracadabra. 7h07, Abracadabra de Steve Miller Band. C'est un classique pour parler de magie. Et hier, il y avait un reportage assez particulier à l'émission La Facture. On a présenté l'histoire d'un homme, Laurent Mattel, qui s'est fait voler sa montre Rolex par un magicien alors qu'il tentait de la vendre. On va parler de tout ça avec François Sanche. Il est l'animateur de la populaire émission La Facture. Salut François.
Salut Patrick.
Donc, peut-être nous résumer là comment Laurent Mattel a été roulé dans la farine.
Ah, ça a été... Écoute, je peux te dire une chose, j'en ai vu de toutes sortes des fraudes hein, depuis le temps que je suis à l'émission La Facture, et je peux te dire que celle-là a une petite place spéciale dans mon cœur. Parce que on retourne à une forme ancestrale de fraude, Patrick. Là, tu peux pas avoir plus analogique que ça. Là, c'est du 100% artisanal, donc c'est une espèce de tour de passe-passe qui a été fait devant le client, devant le vendeur de montre Rolex. Donc, lui, il vendait sa montre. Il y a un acheteur qui s'est présenté chez lui et pendant le paiement, donc, il y a eu une espèce de petit tour de passe-passe avec une espèce de sac, là, une sacoche que l'acheteur avait devant lui. Et en dépliant et repliant sa sacoche, il y avait une autre enveloppe dissimulée avec donc pas d'argent dedans du tout, mais que des découpures de circulaires. Et vraiment, Monsieur Mattel, le vendeur, a été absolument médusé et mystifié de se retrouver avec la mauvaise enveloppe entre les mains. Évidemment, il n'avait pas de conscience de ça du tout. Et il a perdu 15 000 $. Ça a fait voler 15 000 $ vraiment par un tour de magie, comme tu l'as très bien dit. Et même, je peux dire que notre équipe, Natacha McDonald-Dupuis et Carole Pelka, ont eu une sacrée bonne idée d'appeler Luc Langevin, parce qu'en fait, c'est lui, Luc Langevin, donc l'illusionniste bien connu, c'est lui qui leur a donné à l'équipe la clé de l'énigme, parce que personne ne savait comment cet acheteur-là, qui est le voleur, comment il s'y était pris. Et c'est ça qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'on est dans une époque où tout est numérique, mur à mur, les fraudes aussi, mais pas celle-là. Ça, c'est vraiment du grand art. Et c'est Luc Langevin, justement, qui disait à quel point cette personne-là est talentueuse. On peut pas, c'est pas n'importe qui là qui peut faire quelque chose comme ça. C'est vraiment du grand art. Et même vos auditeurs pourraient certainement, ceux qui ne l'ont pas vu, aller voir la reprise de ça là, dans Tout.tv.
Les gens peuvent aller voir ça sur Tout.tv, mais on a l'extrait de l'illusionniste Luc Langevin qui donne ses explications, François.
Une enveloppe d'argent, c'est un objet assez gros. Donc, le niveau de difficulté pour substituer ça est assez élevé. Laurent n'a pas été négligent. N'importe qui se serait fait avoir parce que la manœuvre est dissimulée justement dans un mouvement anodin qui va rapidement être oublié par la personne. Ce processus d'échange d'enveloppe-là a été fait, en quelque sorte, dans les règles de l'art. C'est pas un magicien débutant qui peut le faire.
Il y a des images du voleur, mais le voleur porte un masque, François.
Oui, ben oui. Hein, c'est donc pratique, ça, ce fameux masque-là. Je me suis passé probablement la même remarque que toi. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, ça y est, qu'est-ce que tu peux dire? Monsieur a un masque, c'est gentil, merci de porter un masque. J'ai pas envie d'attraper votre grippe ou votre rhume. Alors voilà, il y a un masque. Mais quand même, on est capable de distinguer certaines caractéristiques de son visage, ce qui fait que bien d'autres personnes ont reconnu ce voleur et nous ont contactés. Natacha McDonald-Dupuis a reçu des appels, des courriels de gens qui se sont fait prendre de la même façon, que ce soit à Montréal, Laval, même Toronto. C'est un voleur prolifique qui sévit ces temps-ci. Alors maintenant, reste à voir si on réussira à l'attraper. C'est comme du Arsène Lupin.
Oui, ben le modus operandi est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a toujours un échange d'argent cash.
Oui, toujours ça. Et pas juste avec des Rolex, on peut le faire avec des iPhones aussi. Donc, une des personnes qui a appelé notre journaliste s'est fait voler son iPhone. Donc, tout ce qui est petit, qui a beaucoup de valeur et qui permet à l'acheteur de s'installer en face de vous, où il peut y avoir, on va compter de la monnaie, on va rassembler ça, mettre ça dans une enveloppe avec un élastique autour. Danger. C'est vraiment l'enveloppe, l'élastique, la petite sacoche qui est placée devant l'acheteur. C'est vraiment un très, très gros feu rouge. En fait, il faut juste pas aller jusqu'au bout de la transaction. Gardez les yeux sur l'argent et gardez l'argent dans ses mains, parce que sinon, vous allez vous faire avoir.
François Sanche, l'autre aspect intéressant de cette saga que vécu Laurent Mattel en vendant sa Rolex là, pour 15 000 $ le 15 000 qu'il n'a jamais eu, c'est qu'il a fait une réclamation à sa compagnie d'assurance, Promutuel, et là, ça aussi, ça a été, la croix et la bannière.
Oui, parce que, en fait, l'assureur a fait une différence entre la fraude et le vol. Donc, la fraude, c'est lorsqu'on remet son paiement ou son bien ou peu importe, quelque chose, volontairement, parce qu'il y a utilisation d'un mensonge en échange d'un paiement éventuellement ou d'un autre service. Tandis qu'un vol, c'est vraiment quelque chose qu'on prend à votre insu. Soit qu'on défonce et qu'on va chez vous dans votre maison, qu'on vous agresse. Hein. D'ailleurs, on a montré quelques images là de ça, à quel point ça peut être violent, les vols de Rolex. Donc, un vol, c'est une chose, une fraude, c'est une autre chose. Et donc, l'assureur prétend toujours d'ailleurs qu'il assure contre le vol et pas la fraude. Pourtant, c'est ce que je disais en conclusion du reportage hier, on se demande s'il n'y a pas du Luc Langevin là-dessous, mais finalement, l'assureur a décidé de rembourser, pas entièrement, mais de rembourser jusqu'au maximum du montant d'assurance là, de M. Mattel, soit 10 000 $. Donc, M. Mattel s'en est quand même bien sorti, mais il y a peut-être autre chose en arrière de ça, c'est que on est vraiment en territoire totalement inconnu avec une fraude de ce genre-là, bien ou sûr. Un vol de ce genre-là. Les assureurs n'ont jamais été confrontés à ça, donc il n'y a pas de jurisprudence. Et si M. Mattel avait décidé d'aller en cours avec cette affaire-là et que le juge avait effectivement statué que c'est un vol, ça aurait pu avoir des impacts sur les assureurs. Alors, peut-être aussi, écoutez, peut-être que l'assureur a simplement décidé d'être bon joueur, mais il y a peut-être aussi l'aspect d'un jugement là qui aurait pu être menaçant pour eux, éventuellement.
François, c'est un cas qui est absolument fascinant, puis la facture a bien fait d'en parler. Je pense que ça va inciter les gens à être sur leur garde, mais le protagoniste là qui s'est fait voler la Rolex et dépouillé de l'argent, M. Laurent Mattel, oui. Es-tu allé voir son fil Twitter?
Non. Devrais-je y aller?
Tu sais que c'est un conspirationniste notoire qui...
Non.
C'est un conspirationniste notoire qui a pas de mots assez forts pour vomir sur les médias traditionnels comme Radio-Canada. J'ai trouvé assez ironique de le voir se revirer vers la facture pour faire triompher la justice.
Ah ben, j'ai mon voyage. Ah ben là, tu m'en apprends une vraie bonne, Patrick. C'est pour dire. Ben non, on n'a pas vu ça sur Twitter.
Écoute, quand j'ai vu qu'il avait été floué par quelqu'un qui portait un masque, je vais te lire un de ses tweets de novembre 2022 à Laurent Mattel. il pose avec un masque double, donc, sur ses yeux et sur son nez et sa bouche, et il écrit « Finalement, on a sauvé combien de vies que nos couches d'en face? » Okay. Regarde, je suis pas en train de te dire que tu n'aurais pas dû le faire. Tu as bien fait. Mais c'est ça. Je trouvais ça assez ironique de le voir se tourner vers les merdias, comme il dit.
Oh, hey, ça veut dire, hein, il faut-tu donc toujours tout vérifier? C'est incroyable.
ça change rien à la validité du reportage et aussi, je pense, à l'importance du message qui a été lancé à la facture.
Oui, Merci
d'avoir été avec nous. Salut.
Hey, ça me fait plaisir.
Salut. François Sanche, l'animateur de la facture.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
En début d'émission, j'ai fait écouter à mes camarades Dave et Catherine un extrait. C'est une influenceuse qui fait la réclame d'un produit déodorant. C'est en anglais, on va écouter quelques secondes.
So, let me get this straight. You guys are telling me that when you're out of the house for hours, you're comfortable walking around with all that stanky body odor that's been building up on you all day?
Donc, écoutez, c'est vous l'avez entendu, c'est la voix d'une fille, d'un être humain. Quand on regarde la vidéo, c'est une fille qui vous parle, elle fait une vidéo de sa voiture, puis tu vois qu'elle a été payée par une compagnie de déodorant. Et là où c'est hallucinant, c'est que elle n'existe pas. C'est une création totale, la voix, l'image, le débit, etc., de l'intelligence artificielle. C'est Bruno Guglielminetti, l'analyste en technologie, qui a mis ça sur son compte Twitter X. Et je l'ai dit tantôt, à un moment donné, il y a une guerre qui va commencer parce qu'il y a un camp qui va penser justement que le président a dit on envoie les missiles, je ne sais quoi. Et Catherine, pendant qu'on jouait ça,
oui?
Il y a quelqu'un qui t'a écrit pour te dire « Hey, on m'a offert d'être comédienne pour un truc semblable. »
Absolument. Elle s'appelle Evelyne Audet. Elle a été une de nos collègues ici à la station. Bonjour Evelyne.
Salut, ça va bien?
Oui, Evelyne, tu dis que tu as été approchée, toi, pour faire ce genre de vidéo. Raconte-nous.
Oui, ouais, je vous explique. Tu sais, Patrick, quand tu dis que c'est une influenceuse, mais en fait, elle n'existe pas. Je ne sais pas si tu as vu l'autre publication que Bruno a fait par la suite, mais cette fille-là existe. Sauf qu'elle n'a jamais dit ces mots-là. Elle a prêté son image, elle a prêté sa voix, et l'intelligence artificielle a fusionné les deux et a fait dire à cette fille-là qu'elle voulait, donc dans le cas que tu viens de mentionner, une annonce de déo. Alors, c'est exactement pour faire ça qu'on m'a approché aussi. Je vous explique là, ce qu'on me demandait de faire. On me demandait de fournir trois vidéos dans lesquelles, pendant trois minutes, je parlais de la pluie et du beau temps. Il fallait juste qu'on me voie et que je parle dans ma langue maternelle. Tout ce qui était demandé, là, c'est que j'ai un ton qui fluctuait pas trop et que je parle en continu, donc qu'il n'y ait pas de pause dans mon débit. Et la troisième vidéo, on me demandait de faire des expressions faciales et de les tenir pendant 10 secondes et de faire des mouvements avec les mains. Et pour ces trois vidéos-là, le prix qui était offert, c'était 400 $ US. Donc, là, évidemment, moi, c'est sûr, ben ça dépend, c'est relatif. Moi, c'est sûr que j'allais pas faire ça, j'allais pas donner mon image pour 400 $ US vu ce que je fais dans la vie, tu sais, c'est un peu comme vous. Par contre, je me suis dit, on m'a approché en ligne, là, moi, sur des plateformes, tu sais, quelqu'un qui fait pas ça dans la vie, qui a pas de vie publique, là, 400 $ US pour trois vidéos qui prennent 10 minutes à faire avec ton téléphone à la maison, c'est quand même attrayant, tu sais. Mais moi, en fait, c'était sûr que je disais non, mais j'étais quand même intéressée à savoir ce qu'il y avait derrière ça. Puis c'est là où j'ai fait semblant de vouloir. Puis j'ai dit, j'aimerais avoir le contrat, tu sais. Et là, j'ai lu le contrat et j'ai compris la portée et l'étendue de ce qu'ils allaient réellement faire avec ça. Et j'ai trouvé ça vraiment troublant.
C'était quoi?
Parce que, en fait, on dit... C'est parce qu'au départ, quand on m'a approché, on m'a dit, on va juste te demander des petites vidéos de 3 minutes. Tu parles de tout et de rien. Puis c'est pour faire des avatars, là. Ils disaient juste ça. Mais quand tu lisais le contrat, ça disait en fait que tu libérais de tout droit ton image, mm-hmm. ta voix et toute information à ton sujet. Autrement
c'est
dit,
incroyable.
C'est incroyable. Là. Si j'avais fait ça, là, t'aurais pu voir cette pub-là demain. OK, Patrick, tu me connais, vous me connaissez un peu. Là, bon, j'aime le sport, tout ça. Vous savez un peu ce que je fais dans la vie. Imagine que demain, vous voyez la même chose que vous avez vue, mais c'est moi mm-hmm. qui essaye de vous vendre un bidule de sport, mettons, là, pour aller courir. C'est sûr que vous allez y croire, là. Alors, c'est ce qu'ils font. Ils prennent l'image, la voix, puis ensuite, ils vont, par exemple, sur le Instagram de la personne, puis ils se disent, bon, elle a 41 ans, elle s'appelle Evelyne, elle aime le sport. Alors, voilà, on va accoler à son image. L'intelligence artificielle va faire une pub de quelque chose relatif à son réel mode de vie, à cette personne-là, et tout le monde va y croire.
Evelyne, tu disais que pour, disons, quelqu'un qui n'est pas dans la vie publique, ça peut être intéressant, ouais. mais ça dépend ce qui est écrit en petit caractère, parce que si tu es une personnalité non publique, puis que tu te retrouves à faire la réclame de n'importe quel produit ou on fait un deepfake pornographique avec toi, bonjour l'humiliation.
Absolument, absolument, si ça tombe. Ben, par contre, dans le contrat, Patrick, c'était quand même écrit qu'il n'y avait absolument rien de dégradant ou d'humiliant ou de controversé okay. qui pouvait... C'est ça, c'était quand même écrit dans le contrat. Mais une pub de déo, ça, on s'entend, ils avaient le droit de le faire. Et moi, je veux dire, des kidam prêts à être payés 400 US pour 15 minutes de leur temps, puis que ça aille sur le web après, à la limite, sont contents. Tu sais,
mais ce qui est fou, c'est que tu sais, pour 400 $ ils vont peut-être te faire je sais pas moi, 20 pubs. Tu sais, c'est minime. Ben, c'est minime. Ouais.
Allez, merci pour le partage. Hey. Ça, ouf,
merci,
ça
Evelyne. Merci.
Puis bravo à vous d'en parler, en fait, parce que moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, là, dans les derniers jours, je me suis dit, oh là là, c'est ça qu'il voulait faire avec mon image. C'est exactement mm-hmm. ça. Dieu merci, non, mais je pense que ce n'est que le début. On va en voir de plus en plus de ça. Là. Fait que bravo à vous autres d'en parler parce que c'est vraiment, ça ne fait que commencer cette histoire-là.
Quelle époque. Merci beaucoup, Evelyne, d'avoir pris le temps. Bonne journée.
À bientôt, bye.
Est-ce que c'était vraiment Evelyne Audet?
Non, ça se peut. Non,
sa voix avec l'intelligence artificielle.
Oui, je pense que oui, je pense que oui. Écoute, quelle époque.
Mais imagine que je pourrais prendre un extrait de toi à la télé, Patrick, c'est dans Deux hommes en or, mettons.
Bien sûr.
Puis là, je te fais dire ce que je veux.
Absolument.
C'est terrible.
Fais pas ça.
Et que, non. Je vais garder ma maison.
De notre vivant, faire des faux comme ça va devenir criminalisé, je pense.
Ben, il faut.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.